Chapitre 9. En arrivant chez son père, elle fit sa malle, qui n'était pas bien encombrée, car, sans le dire à M. de Sarzac, elle avait vendu une partie de ses robes et même de son linge. En retournant à Saint-Lazare, son intention était de remettre au directeur de la prison une partie de la somme qu'elle avait obtenue de la vente de ses effets. Puis, subitement décidée à partir, elle s'était ravisée. Elle ne voulait pas demander à M. de Sarzac le prix de son voyage. Quand le baron rentra, il la trouva la tête renversée sur le dossier d'un fauteuil, n'ayant même plus la force de retenir les larmes silencieuses qui coulaient sur son visage, et se demandant si elle arriverait jamais à briser le cercle de vilenie qui enserrait son existence. Il pensa tout de suite qu'elle arrivait de la prison, et malgré la règle qu'il s'était imposée de ne jamais prononcer le nom de la baronne, il lui demanda « Tu viens de dire adieu à ta mère ?»«
Oui, » répondit-elle.
Il prit un livre pour lui laisser le temps de se remettre, mais comme elle pleurait toujours, il vint s'asseoir auprès d'elle. « Voyons, Aliette, voyons !» lui dit-il avec un peu d'impatience. « Tâche de reprendre du courage et de ne plus pleurer. Tout est fini du côté de ta mère. C'est navrant, mais nous n'y pouvons rien. Nous avons tous les deux besoin de changer d'air et de milieu. Je veux t'emmener au bord de la mer. Notre amie m'offre l'hospitalité dans sa villa. Nous passerons chez elle quelques semaines tranquilles. Tu verras ensuite à reprendre tes projets. » Il avait toujours faim d'ignorer l'antipathie de sa fille pour Madame de Léric, et, malgré son système apparent de la laisser libre, il insistait pour les mettre en présence.
« Je pars demain matin, » répondit-elle.
« Comment, tu pars? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne m'en avais pas parlé. »«
Je pars, » répéta-t-elle.
« Et où vas-tu ? » ?
Chez les Rilly. J'accepte décidément la proposition que vous connaissez. »
« Et pourquoi cette brusque décision ? » demanda-t-il d'un ton sec. Aliette leva les yeux sur lui et son regard frappa le baron. La réponse acheva de l'éclairer.
« Je n'irai jamais chez Madame de Léric. Ma place n'est pas ici. Je n'aurais jamais dû y venir. J'y suis restée trop longtemps. Mais où aller sans argent et sans appui ? » ajouta-t-elle en joignant les mains avec angoisse. « Et puis, savais-je ?»
Autrefois, elle eut manifesté de l'irritation, mais ses coups répétés avaient brisé chez elle un certain ressort. Son énergie naturelle ne se manifestait plus que par l'idée arrêtée et nette de fuir. Peut-être même que si son père l'avait énergiquement contredite, elle n'aurait pas eu le courage de réagir. Mais M. de Sarzac ne pensait pas à la contradiction. Une légère rougeur avait coloré son visage. Il se leva pour aller chercher un cigare, l'alluma avec lenteur, puis il dit négligemment « Voilà qui dérange mes projets, mais je t'ai toujours dit que tu étais libre. Quand tu seras ennuyé de la vie commune avec des gens de notre temps, tu chercheras mieux. Peut-être te décideras-tu, un jour ou l'autre, à reprendre tes occupations d'artiste, alors je t'appuierai si tu le désires. En ce moment, il te faut du repos, évidemment. » Et, somme toute, ton idée n'est pas mauvaise. Mais tu vas être obligé de partir de bien bonne heure demain matin. C'est un peu dur de se lever si tôt.
Ne vous dérangez pas, je vous en prie. Je suis habitué à agir seul.
Non, non, je t'accompagnerai à la gare. Quand te reverrai-je, c'est ce que je ne sais pas. Ce consentement à déranger ses habitudes le rendit très content de lui-même et il sortit en se chargeant avec condescendance d'envoyer une dépêche à Mademoiselle Plouvel. La décision de sa fille le contrariait parce qu'il avait espéré, en la gardant auprès de lui, la décider à reprendre des occupations dont il lui profitait. Il trouvait également que la présence d'Aliette, en donnant à sa maison un air de respectabilité, contredisait vis-à-vis du public des propos qui lui avaient été désagréables. Mais, de notre côté, il reprenait son entière liberté et, après avoir pesé le bien et le mal de la situation, il vit partir sa fille avec indifférence. Malgré la stupeur maladive dans laquelle elle était plongée, il sembla à Mademoiselle de Sarzac que, à mesure qu'elle s'éloignait de Paris, elle respirait plus facilement. Et, se reprenant un peu, elle se souvint qu'elle s'en allait enfin vers une autre vie où elle devait trouver, non pas le bonheur, c'était fini, mais une tranquillité matérielle dont elle avait besoin,
et des sympathies qui adouciraient sa peine cuisante. Elle fuyait la honte, elle fuyait les misères morales dont sa jeunesse avait été nourrie, et malgré la douleur qui l'accablait, cette pensée l'élevait au-dessus de son chagrin. En regardant passer les châteaux et les manoirs, elle se disait que, si les circonstances de sa vie avaient été normales, l'un d'eux aurait pu être pour elle un foyer honorable et très aimé. Dans un arrêt, en face d'une propriété tout ensoleillée, elle remarqua, sous un toit rustique en chaume que soutenaient quatre arbres non équarris, deux jeunes filles qui, tranquillement assises, regardaient passer le train. L'esprit d'Aliette, s'en allant vers la Garenne, pensa alors au calme qui l'attendait. Toutefois, jamais sa paix ne serait celle de ces deux jeunes filles dont la fierté, la délicatesse, l'honorabilité n'avaient pas été écrasées sous une ruine complète. L'impression causée par la vue fugitive de ce tableau si frais et si expressif la fit pleurer, bien qu'en même temps une certaine douleur s'alliât à son sentiment. En approchant de Brest, elle se rappela son arrivée un an auparavant par ce beau soir de juillet si plein de sérénité. Elle y revenait à la même époque, seule, avec un nom déshonoré, et songeant avec une amertume que rien ne pouvait calmer aux vains efforts tentés par elle pour décider sa malheureuse mère à fuir Paris et à reconquérir, dans un coin perdu de la province, une vie respectée. Sur le quai de la gare, elle trouva Mademoiselle Thérèse. « Pauvre enfant, vous voilà !» Elle n'ajouta rien, mais Aliette se sentit tout à coup si protégée, si aimée, que cette arrivée, redoutée par elle comme une épreuve à peine supportable, lui parut presque douce. En entrant chez Mademoiselle Prouvelle, elle fut entourée et accueillie si affectueusement qu'elle céda à son émotion. « Comme je vous remercie !» dit-elle en pleurant. « Nous remercier ? Et pourquoi ? Ce que nous faisons est bien peu. Ah, si vous saviez ce que c'est que d'être bien reçu !» Ce mot poignant, qui résumait ses souffrances depuis 2 mois, alla remuer jusqu'au fond du cœur celle qui l'écoutait. « Vous allez dîner, puis vous vous coucherez, mon enfant, lui dit Mademoiselle Thérèse. Vous êtes malade, ou à peu près. Lorsque vous serez étendu et tranquille, j'irai causer avec vous. » Quand, seule avec son amie, Aliette voulut expliquer avec des réticences la raison de son départ précipité, Mademoiselle Thérèse l'interrompit. « Vous n'avez pas besoin d'en dire plus long, je comprends. Mais enfin, grâce à Dieu, vous voilà au port. Vos cousins sont-ils prévenus de votre arrivée ? Ils ont dû recevoir un mot ce matin. Alors demain, nous les verrons. Ne vous étonnez pas s'ils ne vous parlent d'aucun de vos chagrins, mon Aliette. Ils veulent que des images et des idées différentes vous entourent, de façon à ne rien laisser subsister du passé, du moins extérieurement. Quand vous voudrez causer, venez me trouver. » Pour ses fonctions de lectrice, m'a dit M. de Rilly, nous lui donnerons 800 francs et, naturellement, elle en disposera comme elle voudra. Si elle veut en envoyer une partie à sa mère, cela ne regarde qu'elle-même. Jamais nous ne ferons d'allusion à ses agissements, elle sera entièrement libre. J'avais bien compris tous les sous-entendus de la lettre qu'il m'a écrite, répondit Aliette avec émotion. Peut-être ont-ils raison de ne pas vouloir parler des faits accomplis. Je n'essaierai pas d'aller contre leur décision et j'espère que la paix de cette nouvelle vie viendra en aide à mes propres efforts et que je ne les attristerai pas par mes chagrins. Voilà qui est raisonnable et bon, chère mignonne. » Dans un mouvement spontané, Aliette jeta ses bras autour du cou de Mademoiselle Plouvel en s'écriant « Que de honte, que de blessures de toutes sortes! Si vous saviez combien j'ai besoin de me retremper dans une atmosphère pure !»« Pauvre enfant, vous y vivrez maintenant !» lui répondit Mademoiselle Thérèse d'une voix émue. « Vous n'êtes plus abandonnée, vous êtes pour toujours sous un toit ami. » Elle resta auprès d'elle, lui tenant la main, jusqu'au moment où Aliette tomba dans un sommeil agité. Il était à peine 9 heures quand, le lendemain matin, M. et Mme de Rilly entrèrent dans le grand salon froid de Mademoiselle Plouvel. En revoyant la jeune fille, Mme de Rilly, frappée par son grand changement, s'avança avec vivacité vers elle et la serra tendrement dans ses bras en disant « Nous sommes bien, bien heureux de votre arrivée, Aliette. Et puis, la campagne vous fera du bien. » « Vous êtes bonne, » répondit-elle d'une voix défaillante. « Et que de remerciements, mon enfant, à vous adresser, » lui dit M. de Rilly en lui baisant la main. Elle avait résolu de dominer son émotion, d'entrer dans la pensée de ses cousins, en ne faisant aucune allusion au passé, même par son attitude. Mais elle était trop ébranlée pour offrir une grande résistance au flot d'impressions qui la bouleversèrent en revoyant les Rilly. Elle s'assit sur un canapé et, la tête enfouie dans les coussins, pleura comme elle ne l'avait pas fait une fois pendant la douloureuse année qui venait de s'écouler. Madame de Rilly, en larmes aussitôt, essayait de prendre la main d'Aliette et ne pouvait que répéter « Il ne faut pas, il ne faut pas, voyons !» Mais la détente avait été trop complète et trop vive pour que Mademoiselle de Sarzac se reprît promptement, et ce fut après une longue crise qu'elle parvint à dire « Je vous demande pardon, je n'ai pas pu !»« Oh, nous comprenons bien !» s'écrièrent-ils. Monsieur de Rilly s'assit auprès d'elle. « Essayez de vous calmer, pensez maintenant à votre nouvelle vie. Nous allons vous emmener dès ce matin, voulez-vous ? Il faut prendre tout de suite des habitudes. D'ailleurs, vous reviendrez ici quand il vous plaira, nous venons sans cesse à Brest. » « Je serai contente, répondit-elle, de m'établir à la Garenne le plus tôt possible. » « Voilà qui est entendu, répliqua M. de Rilly, enchanté de se trouver sur le terrain des fêtes pratiques. Mademoiselle Plouvel entra avec vivacité, les brides de son chapeau dénouées et le visage tout animé par sa hâte à monter les escaliers. « Vous venez m'enlever, Aliette, j'ai aperçu votre voiture dans la rue et, du reste, j'étais bien sûre de vous trouver ici. Nous voudrions l'emmener déjeuner à la Garenne si vous ne vous y opposez pas toutefois. Pas le moins du monde, c'est une bonne chose que, dans son état de fatigue, elle s'installe le plus vite possible d'une façon définitive. » Pendant qu'Aliette se préparait pour partir, Madame de Rilly exprima ses vives inquiétudes. « Mais elle est malade, la pauvre enfant. Elle est affreusement changée. Je me demande en vérité si je l'aurais reconnue. Je pense et j'espère que du calme, de bons soins, surtout l'influence du milieu et de la campagne, la remettront. Quand je dis j'espère, continua Mademoiselle Plouvel, c'est une manière de parler, car si cette victime des autres s'en allait, pourrait-on pleurer ?» « Vous dites des choses affreuses, ma chère amie !» s'écria Madame de Rilly. « Elle a eu une crise de désespoir en nous revoyant, » ajouta M. de Rilly. « Quand elle sera bien, j'aurai soin d'avoir grand besoin de ses services et, dans peu de temps, je lui remettrai la moitié de la petite somme que nous pouvons lui donner. Ce sera un soulagement pour elle d'envoyer un secours à cette misérable femme. » « Ah, je vous aime de tout mon cœur, vous !» répondit Mademoiselle Plouvel en lui prenant les deux mains qu'elle serra chaleureusement. Pendant le trajet de Brest à la Garenne, les Rilly, pour laisser la jeune fille à ses pensées et à son émotion, s'ingénièrent à parler des petits faits de leur paisible existence. De temps en temps, comme elle eût agi avec un enfant, Madame de Rilly lui envoyait un grand sourire naïf pour la réconforter ou la distraire. Peut-être, du reste, un esprit moins simple n'eût-il pas trouvé mieux, car la jeune fille en éprouvait une sensation de bien-être. Après tant de douleurs, tant d'énergie déployée, tant d'efforts sur elle, une réaction devait nécessairement se produire, et Mademoiselle de Sarzac tomba dans un anéantissement qui ne lui permettait ni de bouger, ni même de penser. Cet état dura plusieurs semaines, puis elle commença à subir l'influence de la saine nature. Ce fut une force pleine de douceur qui, la pénétrant, lui rendit la vie sans violence, comme si une main bienfaisante lui versait goutte à goutte un breuvage parfumé et fortifiant. Peu à peu, elle en vint à comprendre que la sécurité qui l'entourait était réelle, que, quel que fût son déchirement en pensant à sa mère, elle était désormais délivrée des secousses et des angoisses dont elle avait l'habitude. Cependant, quelquefois encore, quand elle s'était endormie sur la chaise longue qu'on portait pour elle dans le jardin, elle s'éveillait tout à coup en gémissant, avec une expression de terreur et même des cris d'effroi. La vue du visage prosaïque et empreint de bonté de sa cousine la rendait à la réalité. « Comme je suis ennuyeuse !» lui disait-elle. « Je n'étais pas venue ici pour être une charge. » « Que dites-vous là, cher enfant? Quand vous serez remise, vous nous rendrez 1000 services. Et puis, je voudrais bien... »« Quoi ?» demanda Aliette. « Vous entendre quelquefois chanter si votre voix revient et si cela ne vous fait pas de peine. »« Mon art me faire de la peine !» s'écria-t-elle en se soulevant. « Oh non, et jamais il n'aura été un meilleur ami, un plus grand consolateur, maintenant que, complètement lui-même, il ne sera ni salarié ni dépendant. Je serai heureuse que vous en jouissiez. » Appuyée sur le bras de M. de Rilly, elle commença à se promener dans le vieux jardin, s'arrêtant avec un plaisir d'enfant devant chaque statue brisée, chaque vase enfoui sous les plantes parasites. Il lui en racontait l'histoire avec délice, ravi d'avoir auprès de lui un auditeur attentif aux vieilles anecdotes que tout le pays connaissait. Pensive, elle l'écoutait remuer les actes intimes de ceux qui avaient disparu et, de la mélancolie qui l'envahissait, se dégageait la pensée consolante que, dans 50 ans, peut-être moins, les hontes et les douleurs de sa vie seraient ensevelies sous des pariétaires. Un matin, voulant essayer ses forces et surtout revoir l'endroit préféré où elle avait réfléchi et médité l'année précédente, elle alla s'asseoir dans le petit cimetière. Aucun changement dans son aspect aride, sauf deux tombes nouvelles que les œillets sauvages n'avaient point eu le temps encore de parfumer. Au milieu de la liberté dont elle eût voulu naguère prendre sa part sans mesure, avec enivrement, elle s'aperçut que ses idées avaient trouvé une assise assez ferme pour qu'elle ne s'abandonnât plus aux impressions passionnées de ceux qui aiment la nature. C'était beaucoup parce qu'elle avait trop souffert, mais encore plus parce que, ses pensées et ses sentiments ayant suivi une marche ascendante, elle avait pénétré profondément dans une vie morale à laquelle la beauté extérieure ne formait plus qu'une entrée magnifique. Elle ne chercha pas à analyser ses impressions, mais, assise sur la pierre brisée, elle laissa passer les heures, jouissant en convalescente d'un chaud soleil de septembre, et songeant, avec sa mélancolie habituelle, qui n'était pas sans douceur, que les pâles fleurs des dunes qui croissaient autour d'elle vivaient et se fanaient sur ceux que l'oubli enveloppait de son ombre impénétrable. Elle avait si bien perdu la notion du temps qu'elle se disposait à descendre sur la grève quand elle s'entendit appeler. Monsieur de Rilly, accompagné d'un médecin qui était venu voir fréquemment Aliette, s'avançait avec précipitation. « La voilà, la voilà ! Mais, mon enfant, à quoi pensez-vous ? Venir seule ici, fatiguée comme vous l'êtes, c'est une imprudence !»« Je me sens tout à fait bien, répondit-elle. Mais quelle heure est-il donc ? L'heure du déjeuner. Nous vous avons cherché partout et j'ai eu l'idée de venir ici. Antoine est arrivé à la Garenne pour sa visite de médecin, mais vous vous étiez envolé. Nous craignons vraiment que vous ne vous fussiez trouvé mal dans quelque fossé. Je suis sincèrement désolée de vous avoir inquiété. J'avoue que j'ai tout oublié dans ma rêverie. « L'imprudence vous a réussi, mademoiselle, » lui dit le médecin. « Vous n'avez plus cette pâleur qui tourmentait Madame de Rilly. J'en suis vraiment bien content, bien heureux. » Il parlait d'un ton un peu bref et brusque, comme un homme à qui manque l'habitude du monde. Mademoiselle de Sarzac, jusque-là, n'avait fait à lui qu'une attention relative, mais le ton convaincu dont il manifestait sa satisfaction lui fut agréable, et, avec affabilité, elle le remercia de ses soins. Il la salua gauchement et prit congé de M. de Rilly. « Viens dîner ce soir avec nous, Antoine. Tu sauras si ta malade est toujours aussi vaillante. » En s'en allant, il dit à la jeune fille « C'est un brave garçon que ce Guessec. Il a paru tout ému à l'idée qu'il avait pu vous arriver un accident. » C'est dommage que son excellent homme de père n'en ait pas fait un cultivateur comme lui. il avait amassé un bon petit pécule et a voulu transformer son fils en monsieur et bien à mon corps défendant. Mais ils sont tous entêtés. Quel inconvénient voyez-vous à ce qu'il soit médecin ?
Quel inconvénient ? Il ne se trouve à sa place nulle part. Par sa demi-éducation, le voilà au-dessus des parents qui lui restent, mais vis-à-vis de nous, il n'est qu'un demi-monsieur. Il le sent et en souffre.
Bah, il fera son chemin comme tant d'autres.
Nous voici arrivés, et voici ma femme qui vient nous reprocher votre escapade.